88.3.
Je croyais que c'était pas réel.
L'esprit pense que ça l'est.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Yes, Campus 88.3 FM, il est 12h. Bienvenue à tous. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui je suis très bien entourée car j'ai avec moi autour de cette table des invités et des chroniqueurs qui nous ont préparé plein de sujets. J'espère que vous êtes attentifs parce que ça va être une émission qui va vous faire apprendre plein de choses, quels que soient des sujets d'actualité, des sujets historiques ou bien des jeux, vous allez être servis. Autour de cette table, j'ai avec moi Chris qui nous parlera de Messi et du Ballon d'Or. Antoine nous fera un petit cours d'histoire et nous partagera toutes ses anecdotes autour du 11 novembre. Ludo, lui, nous fera sa chronique axée sur le manga. Et nous aurons aussi le droit au super jeu de Nico. Et aussi, comme chaque début de mois, nous aurons l'agenda Tu connais la nouvelle qui est réalisé par le Théâtre du Clin d'œil pour clôturer cette émission. Et nous aurons aussi l'interview de Mathéo avec Fabienne Médussin qui est chargée de mission handicap et égalité des chances auprès des étudiants du campus d'Orléans. Mais je vais passer à toi, Chris. On voit bien que cet événement suscite encore beaucoup de débats autour de cette nomination par rapport au Ballon d'Or. Dis-nous en plus.
Bonjour à tous. Donc, en effet, oui, le lundi 30 octobre dernier s'est déroulé au somptueux théâtre du Châtelet à Paris l'un des événements les plus attendus par les fans du football, c'est-à-dire la mythique remise du Ballon d'Or, titre qui vient récompenser le meilleur joueur de foot de la saison. Et comme vous le savez quasiment tous, c'est Lionel Messi qui a encore remporté le Ballon d'Or édition 2022-2023. Messi améliore donc son propre record avec 8 titres obtenus et devance largement son dauphin Cristiano Ronaldo qui a obtenu lui 5 magnifiques Ballons d'Or. Messi, en 2022-2023, c'est 55 matchs, 32 buts et 25 passes décisives avec le PSG et l'Inter Miami. Ce à quoi il faut rajouter 17 buts avec l'Albicéleste, surnom donné à l'Argentine, dont 7 lors du seul mondial de football au Qatar. Messi remporte donc, lors de cette saison, une Ligue 1 et une Ligue Cup avec l'Inter Miami. Aux yeux du jury, ce palmarès est largement suffisant pour faire la différence avec Erling Haaland, le Norvégien deuxième du Ballon d'Or qui a remporté avec Manchester City la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup. En plus de ça, il termine meilleur buteur et meilleur joueur de Premier League et meilleur buteur et joueur de la Ligue des Champions et remporte donc logiquement le soulier d'or. Pour finir, à la troisième place, on retrouve le triste français Kylian Mbappé. Finaliste du dernier mondial, malgré son triplé en finale et sa récompense de meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il termine sa saison avec une petite Ligue 1 et un petit trophée des champions. Suite au résultat, c'est toute la planète football qui a vibré. Entre les soutiens de Messi qui trouvent que le sacre est logique car il a quand même remporté la Coupe du Monde, ceux qui trouvent qu'encore une fois, ce sacre est totalement injustifié et que Messi ne mérite absolument pas ce Ballon d'Or. Et puis, vous avez les pros Ronaldo qui de toute façon considèrent que Ronaldo aurait dû remporter ce titre. Plus sérieusement, on va surtout s'intéresser à comment le titre du Ballon d'Or est attribué par l'organisateur qui est aussi le créateur, le média France Football. Aujourd'hui, France Football offre la possibilité à une élite de 100 vrais connaisseurs de voter pour le meilleur joueur de la saison. Ceux-ci sont choisis sur la base des 100 premiers pays du classement FIFA. Chaque votant organise un top 5 sur 3 critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès de la saison, et pour finir, la classe du joueur et son sens du fair play. Alors, logiquement, c'est celui qui reçoit le plus de points qui remporte le Ballon d'Or. Cette année, Messi a récolté 462 points, Haaland 357 et Mbappé 270. Cependant, on peut logiquement se demander si cette élite est vraiment impartiale vis-à-vis des joueurs qu'elle doit noter. Par exemple, en Suisse, le classement est le suivant. Haaland en tête, suivi de Vinicius, suivi de Yacine Bounou, Bernardo Silva et Saka. Un classement qui nous interroge tous sur les compétences du journaliste qui a organisé ce top 5. Du côté de l'Argentine et du Portugal, on reste extrêmement chauvin. Le journaliste argentin a lui proposé un top 5 avec 4 Argentins et seulement Mbappé en 3ème position. Du côté du Portugal, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est Bernardo Silva qui arrive en tête, suivi de Vinicius Junior, puis du podium Messi, Haaland, Mbappé. Le ballon d'or souffre depuis 2013 d'une crise de crédibilité suite au scandale du non-sacre de Franck Ribéry qui aurait dû logiquement la remporter. Malheureusement, on peut citer bien d'autres polémiques en plus de celle-ci. La saison 2020-2021 avait vu Messi se faire encore une fois sacré face à la saison XXL réalisée par son dauphin, le Polonais Lewandowski. Il y a quelques jours, France Football a annoncé une collaboration avec l'UEFA pour organiser les prochains ballons d'or. Y aura-t-il plus d'objectivité pour nommer les lauréats? Telle est la question. Mais alors pour vous, Messi, mérite-t-il réellement son ballon d'or ou pas?
C'est une question assez complexe. Est-ce que Antoine, tu as une réponse à apporter?
Pas une réponse, un avis peut-être. Pour moi, Messi ne mérite pas du tout son ballon d'or. Ça récompense juste sa belle performance à la Coupe du Monde. Et encore, Chris, tu dis qu'il marque 7 buts en Coupe du Monde. Il y a quand même 6 pénaltys. Donc, si on doit récompenser une Coupe du Monde, en 2018, on aurait dû avoir un Français ballon d'or et ça n'a pas été le cas. Donc, ça récompense Messi pour toute sa carrière, mais pas pour cette année.
C'est vrai. La même année, Griezmann avait réalisé une saison XXL aussi avec l'Atlético. Donc, c'est vrai que ça pose débat.
Et
ça,
vous aurez un avis sur une personne qui aurait pu avoir cette nomination à la place de Messi, pour vous?
Ah ben, Haaland.
Haaland.
Voilà. Alors, il n'y a aucun débat.
Vu la saison qu'il fait en Première Ligue, il gagne Ligue des Champions, Première Ligue, il ne peut pas faire plus. Et la FA Cup, et il ne gagne pas.
Voilà. D'accord, merci à vous, merci Chris. Espérons que l'année prochaine, le Ballon d'Or apportera un plus large consensus. On revient dans quelques instants, je vous laisse écouter une musique et on passera à la chronique d'Antoine. À tout de suite.
Alors c'est Big Siga 70 avec Malungu.
Thank you.
À l'instant, Big Cigas Setenta avec Malungu sur Campus 88.3 FM. Vous êtes bien dans Écoute ta fac. Et c'est l'invité.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac. On est de retour sur l'émission Écoute ta fac. Il est midi 10 et avant d'écouter la chronique d'Antoine, je vous laisse place à Mathéo qui nous a présenté... qui nous a préparé une petite interview avec Fabienne Médussin qui est ici avec nous. Fabienne Médussin, vous êtes chargée de mission handicap et égalité des chances auprès des étudiants du campus d'Orléans. Bienvenue à Radio Campus Orléans. Mathéo, je te laisse la parole.
Merci. Vous êtes du coup chargée de mission handicap et égalité des chances. Mais quel est votre rôle justement et qu'est-ce que c'est ?
Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je vais prendre mes quartiers ici. En fait, j'adore venir discuter avec vous. Donc, Fabienne Médussin, je suis effectivement... Alors, à la base, je suis enseignante-chercheur. Hein. Je suis quand même enseignante et je fais de la recherche à l'Université d'Orléans. Et puis, dans un laboratoire qui s'appelle l'ICMN, qui est sur le site du CNRS. Et j'ai accepté, 9 ans et quelques maintenant, la mission de chargée de mission concernant l'égalité des chances pour les étudiants et le handicap. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, cette réalité, cette mission-là ? C'est accompagner au mieux les étudiants en situation de handicap, alors que ce soit de naissance ou en cours de route, hein, parce qu'on sait que 80% des situations de handicap sont acquises au cours de la vie. Donc ça peut arriver à tout le monde, hélas. Donc accompagner au mieux ces étudiants dans leurs études par des aménagements, hein, et puis que ça soit pour les études au quotidien, pour les examens, pour l'insertion, pour tous les champs de la vie étudiante. Et j'ai la joie de m'impliquer dans cette mission depuis plus de 9 ans. Et, voilà.
Donc ça existe depuis 9 ans ?
Alors en fait, ça existe depuis bien plus longtemps que ça. L'Université d'Orléans a été vraiment une pionnière dans cette prise en compte du handicap, puisque le premier service d'accompagnement date du siècle dernier même, de 1989. C'est-à-dire même avant la loi sur le handicap de 2005. Donc c'est vraiment un service qui a été fait par des étudiants à l'époque, pour des étudiants. Et ça s'est professionnalisé au cours du temps. Et maintenant, on accueille quasiment 400 étudiants déjà, et plus de 400 à la fin de l'année. Donc c'est un réel besoin, en fait.
Donc depuis le siècle dernier, donc les étudiants peuvent avoir accès à ce service ?
Exactement. Alors, au tout début, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants avec quelques situations peut-être très lourdes, hein, du handicap plutôt moteur. Et maintenant, le plus gros des étudiants, en fait, ont des difficultés de type dyslexie, dysgraphie, etc. Parce qu'il y a un meilleur dépistage, un meilleur accompagnement. Et c'était des personnes qui n'arrivaient pas aux études supérieures précédemment. Et maintenant, ils sont là. Donc, c'est vraiment tout gagnant-gagnant, en fait.
Est-ce que c'est compliqué justement de s'intégrer, enfin que les personnes s'intègrent aux autres classes ?
Alors en fait, elles sont intégrées depuis toujours. Hein. On a maintenant, depuis la loi de 2005, une école qu'on appelle une école inclusive. Avant, il y avait des instituts médicaux éducatifs où vraiment on mettait alors par type de handicap en plus, c'était assez spécialisé. Là maintenant, tout jeune, quelle que soit la situation de handicap, est en classe qu'on appelle ordinaire. Et l'environnement qui se met en ordre de marche pour accueillir au mieux chaque personne avec sa spécificité, ses besoins spécifiques.
J'ai pris conscience aussi de nombreuses aides que peuvent bénéficier de ces personnes justement en situation de handicap, donc qui peuvent être présents dans les salles de classe, donc les personnes qui peuvent les aider. Est-ce que c'est aussi possible dans ce genre de cas ?
Alors, si on parle des AESH, donc les accompagnateurs d'éducation et puis pour les situations de handicap dans le milieu scolaire, j'ai envie de dire, on n'a plus d'AESH à l'université, ça n'existe plus. Par contre, on paye des étudiants qui ont des contrats pour accompagner les étudiants en situation de handicap. Alors, j'ai des exemples en tête, hein, notamment une étudiante aveugle qui est accompagnée de sa résidence jusqu'à son lieu de cours par un étudiant, en fait, qui est payé pour ce type de job. Voilà.
Donc, c'est possible pour tous les types de handicap. Par exemple, ceux qui sont en motricité réduite, ceux qui sont sourds ou malentendants et autres types.
tous les types de handicaps sont aménageables. Il y a une étude des besoins qui est faite par le jeune et puis par... alors, à la demande de l'étudiant, je précise. Hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'étudiant, tu es en situation de handicap, tu vas avoir des aménagements. C'est à la demande de l'étudiant et c'est en fonction de ce qu'il exprime comme besoin. Et il y a une étude qui est faite par le service de santé universitaire et par la passerelle handicap. Et on ne s'interdit pas de faire des propositions d'aménagement qui peut-être ne colle pas à ce qu'on attendrait, mais je vous donne un exemple tout de suite. Pour des étudiants malentendants, on peut mettre à disposition une boucle à induction magnétique pour permettre de mieux entendre. Je l'ai proposé à un étudiant autiste. Voilà. Comme ça, il était directement branché au micro de l'enseignant. Ça gommait un peu le bruit de la salle et ça lui permettait un confort d'écoute du cours qui était meilleur. Donc voilà, c'est en fonction de chaque personne, en fait.
Mis à part les personnes en situation de handicap qui ont des aides, est-ce que vous aussi, pour améliorer justement les conditions du coup pour que les élèves en situation de handicap puissent écouter le cours et avancer, est-ce que vous aussi vous avez reçu des aides du coup pour aménager le bâtiment en fonction du coup de tous les types de handicap?
Alors il y a plusieurs réponses possibles à cette question-là. En fait, on travaille sur deux aspects, c'est-à-dire l'accessibilité. Au sens de la norme. Et là, on a une obligation en préfecture. On a déposé un agenda d'accessibilité programmé. Je rencontre notre nouveau directeur des services immobiliers techniques dans 2 semaines. Donc, pour refaire un point avec lui, mais je faisais le point régulièrement avec la personne en charge précédemment. Et là, en fait, les travaux sont obligatoires, sont prévus, sont vraiment bien organisés. Ça, c'est une chose. Et là, ça, on le fait régulièrement. Après, autant T, quand on a une personne qui a un besoin particulier, on met ce qu'il faut en place pour pouvoir l'accompagner au mieux. Donc en fait, on joue sur ce qu'on appelle la norme et l'usage, c'est-à-dire une personne bloquée à un moment donné, on fait ce qu'il faut pour l'aider, même si ça ne lève pas de pourcentage d'accessibilité au sens de la norme. C'est-à-dire que si on fait rien, ben voilà, au sens de la loi, on est tranquille, il y a pas de souci. Mais on sait que voilà, le quotidien des gens, c'est pas que dans les normes et dans les lois, c'est dans l'usage.
Justement, dans l'accessibilité, comme par exemple les portes plus grandes pour que les fauteuils roulants puissent passer, ou les pentes justement à l'entrée.
Alors ça, maintenant, oui, tous les nouveaux bâtiments sont aux normes. Là-dessus, il y a pas de souci. Par contre, on a plein d'anciens bâtiments. Qu'il faut rééquiper pour justement permettre l'accès à des fauteuils peut-être plus grands, à des fauteuils mécaniques ou électriques qui sont plus volumineux, etc. Et puis l'accessibilité aux amphis aussi, parce que c'est bien de pouvoir rentrer. Si on peut s'asseoir à une table pour prendre ses notes, c'est aussi pas mal, quoi. Donc on a mis du mobilier en place. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça.
Du mobilier qui est fait exprès du coup pour ces personnes en situation
Exactement.
De handicap. C'est parfait, j'adore. Est-ce que justement vous avez des anecdotes à raconter par rapport à ça?
Alors, allez, on va donner une anecdote sympa et puis une moins bien, peut-être pour être complètement objective, hein, parce que moi, j'ai envie de dire que tout va bien, mais c'est faux, hein, tout va pas bien. On informe du coup à chaque fois les étudiants sur les aménagements qu'on peut mettre en place pour eux, puis on les décide ensemble, et puis on transmet les informations aux enseignants. Donc, aux responsables de la formation qui transmettent à tous les responsables de cours, etc., etc., jusqu'aux vacataires. Et puis, je pense que les vacataires ou les enseignants sont un petit peu comme les étudiants. Attention, je vais faire un petit tacle. Ils ne regardent pas forcément leur mail. Voilà, le message est passé.
Effectivement.
Voilà. Bon, après, c'est comme ça qu'on communique avec de nos jours. Donc, pour avoir les infos, il faut vraiment regarder ses mails. Voilà. Hop, je ferme la parenthèse. J'ai fait mon enseignante, là. Et... Enfin, responsable des études aussi, c'est pour ça. Et du coup, un des vacataires ne savait pas qu'il avait dans son groupe de classe un étudiant aveugle. Et là, il a vu l'étudiant arriver au bras de quelqu'un avec sa canne blanche dans son amphi. Et ça a été le drame. Voilà. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, de moins en moins, on essaye vraiment de sécuriser au maximum et de prévenir tout le monde, d'accompagner pour qu'il n'y ait pas de blocage, de situations complexes, parce qu'un enseignant, il va toujours dire « bon, vous voyez ». Voilà. Et là, pour le coup, non, il ne faut pas dire « bon, vous voyez », il faut décrire, et ce n'est pas pareil. Enfin, voilà. Donc, tout ça, ça se prépare. Donc, ça, c'est la mauvaise anecdote. Qu'est-ce que je peux donner comme anecdote plutôt sympa? Des étudiants qui reprennent contact quelques années après. Et puis qui disent, bon, bah voilà, vous avez tout mis en place. Le contact avec l'entreprise dans laquelle je bosse maintenant a été fait. L'aménagement de poste était sur les rails. Et puis bah, maintenant, je suis en poste depuis 5 ans et tout se passe bien, quoi. Voilà.
Au moins, il y a quand même de bonnes situations, quand même.
Il y a des côtés vraiment positifs, surtout qu'on a maintenant vraiment une volonté de sécuriser le parcours jusqu'à l'insertion professionnelle. Moi, je suis ravie d'avoir des étudiants. Je suis ravie d'accompagner les quasiment 500 étudiants qui viennent nous voir chaque année à la passerelle. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un boulot et de se sentir bien dans son travail pour que tout le monde soit content. Et pour le coup, là, on a de plus en plus de partenaires. On a une convention avec la région. On a donc une convention avec le fonds d'insertion aussi des personnes handicapées. Donc voilà, vraiment, le but du jeu, c'est de sécuriser.
Et dernière question que je voulais justement rebondir sur une de vos anecdotes. Le message que vous faites passer, vous dites par mail, est-ce que vous aussi vous passez dans les classes pour prévenir ce genre de situation ?
Alors, c'est-à-dire le jour J, enfin un petit peu avant que l'étudiant arrive ou au début de l'année,
ouais,
par exemple ?
Début d'année ou avant que l'étudiant arrive, justement.
Alors, de toute façon, à chaque situation un petit peu complexe, hein, je pense aussi à l'autisme, hein, l'accompagnement de l'autisme, je propose des sensibilisations à toute l'équipe pédagogique, et c'est-à-dire pas que les enseignants, en fait, aussi les responsables de bibliothèque, les personnes à l'accueil, les secrétaires, pour que tout le monde ait le niveau d'information et sache comment réagir. Donc, on accompagne au maximum. Après, si les gens sont là 2 heures seulement pour un cours et ne regardent pas les infos, bah voilà, il y a des trous dans la raquette et de temps en temps, il y a des difficultés, quoi. Voilà.
Ben, je vous remercie.
Je peux juste vous donner une dernière info qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors, je fais de l'audiodescription, je porte du bleu, puisque dans le collège de l'un de mes enfants, il fallait porter du bleu aujourd'hui. Le harcèlement scolaire, ça existe aussi à l'université. C'est... Les gens autour de moi cherchent du bleu.
Excusez-moi.
J'ai ma polaire université bleue. Je peux vous la laisser si vous voulez. J'adore. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'être sensibilisé à ça. On le fait de plus en plus pour les personnels et pour les étudiants. Il y a des formations pour les assos, etc. C'est porté par Didier Chavrier qui fait ça très bien. Et si on voit une situation et qu'on ne fait rien, eh ben, en fait, ça veut dire qu'on cautionne. Donc, on laisse rien passer. Voilà, merci.
Merci. J'aurais une dernière question par rapport au handicap. Est-ce que pour vous, l'Université d'Orléans et même au-delà, toutes les universités de France seraient aptes, on les épaule en tout cas sur le long terme à apporter en tout cas des solutions pour les personnes en situation de handicap, que ce soit aussi au niveau des ressources financières, on peut se poser aussi ces questions-là. Est-ce que pour vous, sur le long terme, ça peut être une possibilité ou est-ce qu'il faut se donner plus de moyens humains, matériels ou aussi financiers, selon vous ?
Alors, c'est le nerf de la guerre, hein, les sous. On a des sous pour les aménagements techniques. Ça, en général, il n'y a pas de problème. On trouve les financements, il y a plein de dispositifs qui existent. Les aides humaines, ça pose plus de soucis, puisqu'il faut trouver des personnes formées. Donc ça, je pense qu'on a, je vais le dire gentiment, une marge de progression. Voilà. Pour ce qui concerne tous nos devoirs en tant qu'organisme de formation, je vous rassure, ce n'est pas l'argent qui manque pour la mise en place d'aménagement. Voilà. Donc là, on a ce qu'il faut pour travailler. Par contre, c'est sûr que pour recruter des gens formés, de temps en temps, c'est un peu compliqué. Voilà.
D'accord. Merci Fabienne Médussin. Merci Mathéo pour cette interview. De notre côté, on revient dans quelques instants. Je vous laisse avec une musique et juste après, vous écouterez la chronique d'Antoine. À tout de suite.
Merci à vous. Au revoir.
On écoutait The Proc avec All City, Nerve Map. There's nothing you or anyone can do. This is my nightmare. I've got to get out of it myself, just as I got into it.
First uninvited tech, I hear pinging, ringing a cameo from the Hammerstone. Bam, the fantasy brandishing a banana phone. Cramping to the glamper van, vanish off the candy cam. Frying pan of fire like a vandal hand on Montana gold. Fan the flame of animals with access to the roof like Michelangelo. About to free a statue from a cube. Hold a can of ruby like a spam of subi. In a blink, I turn a block or two to pomegranate smoothie. All state ball of fleas, walk in front of Greyhound. And Jay's so clean, even Paul of Thieves came out. Office in the hall of me, I can't even check the mail without a trail of hands.
expedition. What's up? All type of shit, all type of shit. Dashing through the atlas, throwing magic at the sciences. I'll be in the crow's nest most days. I'ma have a whole mess rotate. All type of shit, all type of shit. Dashing through the mire, the master of my environment. I've been doing laps of the lost worlds. I could draw a map to the raw nerve. By the bridge, the air is the edge to it. It smells like a burning centra, it tastes like a tanzuna. The tension is extra, extra. The methyl induces hubris. The hubris produces a weapon for any potential Judas. A newbie can be confused with. It ain't the hood to play who's who in. I mean, you ain't even you in it to who is. I cook under every nook. I'm a snapper, the sewer cap. It's a mile of an even cobble. A map of the booby traps. I've been active around the alleys. Beyond with a taxi, taxi. Beyond with a bustle, bus here. With the blood on the classic khakis. A cannonball in the traffic. A fire escape is trapped. He's a lapse in the record when he circled back to tag the Applebee's and procure the appetizer breadsticks. They kill us in the long run, but unite us in the present. A sign of life in the dead ends, even if it's mostly mildew. You ain't get it if you still on that. What are you getting into? All type of shit, all type of shit. Dashing through the atlas, throwing magic at the sciences. I'll be in the crow's nest most days. I'ma have a whole mess rotate. All type of shit, all type of shit. Dashing through the mire, the master of my environment. I've been doing laps of the lost worlds. I can draw a map to the raw nerves. Part of what the dour climate bee gets. A people that don't jump at the power that bees behest. Come bounce around a house of flying rejects. We've been eating where upheaval is a feature, not a defect. Tortellini and Marie's and zero dirty dishes. Only dirty minions yelling over yellow journalism. I got witches and wizards who opt to summer under bridges. Over sun-kissed in the tropics, maybe something's in the liquid. I'm foreign to the comfort of performance for the glory. Every artist part of outrunning an origin story. That get them pressed into the corners and connecting the dots and no order. Learn to render any exit I want. It's a hole in the floor. It's a door in the bricks. It's a bike in the alley when you can't warp to the ship. I stuck a fork in myself before you were spores in a dish. The mission only as important as that lore in your lip. Sure shit. All type of shit. All type of shit. Dashing through the atlas, throwing magic at the sciences. I'll be in the crow's nest most days. I'ma have a whole mess rotate. All type of shit. All type of shit. Dashing through the mire, the master of my environment. I've been doing laps at a lost world. I can draw a map to the raw nerve.
On écoute Ezoproc avec, avec All City Nerve Map.
On est de retour. On est de retour sur l'émission Écoute ta fac. Il est midi 28 et j'espère que vous allez tous très bien. On passe tout de suite à notre instant histoire de l'émission avec Antoine qui va nous partager des anecdotes peu connues sur la journée du 11 novembre. Antoine, dis-nous en plus.
Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, je vais vous faire une chronique historique qu'on pourrait appeler « Le saviez-vous ?». Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'armistice du 11 novembre 1918 et j'ai quelques petites anecdotes autour de cette date symbolique qui fêtera ses 105 ans ce week-end-ci. Donc tout d'abord, quelques petits rappels historiques pour commencer. Donc la Première Guerre mondiale commence le 28 juillet 1914 et se termine entre guillemets le 11 novembre 1918. L'événement déclencheur est l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois et de son épouse. Cet événement ne fait que pousser au paroxysme des tensions issues de vieux contentieux, donc on peut parler de rivalité stratégique, politique, économique et coloniale. Suite à cet assassinat, les alliances des différents pays vont se mettre en place. Donc on retrouve d'un côté la Triple Entente qui réunit la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Et de l'autre côté, la Triple Alliance avec l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Et donc tous les pays vont se déclarer la guerre d'une manière successive. Et en à peine une semaine, tous les pays d'Europe seront en guerre. Donc après, malheureusement, s'ensuit ce qu'on connaît, 4 ans de guerre, qui vont d'abord être des guerres de position et de tranchées, puis à la fin des guerres de mouvement. Cette guerre entraînera la mort de 10 millions de personnes au total, dont plus d'1,2 million de morts en France, et 5 millions d'invalides français, qu'on appellera par la suite les gueules cassées. C'est une guerre nouvelle donc, qui a été faite au niveau industriel, donc, comme on peut le dire. De 1914 à 1918, près de 70% des pertes humaines ont été provoquées par l'artillerie lourde. Rien que pour l'année 1918, c'est près de 250 millions d'obus qui sont tirés, soit 830 000 obus qui sont tirés par jour. C'est impressionnant. De nouvelles armes sont utilisées, donc des armes sales. Donc c'est l'utilisation de gaz volatiles comme le gaz moutarde qui est le plus connu. Et enfin, il y a des célèbres batailles malheureusement qui sont passées à la postérité, comme la bataille du Chemin des Dames qui fait près de 200 000 morts côté français en seulement 2 mois d'offensive. Et la plus connue de toutes, la bataille de Verdun qui, en quelques chiffres, 250 000 morts côté français, 53 millions d'obus tirés en à peine 10 mois de bataille. Donc après ce petit récapitulatif peu joyeux, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me donner la vraie date de la fin de la Première Guerre mondiale ?
Quelqu'un a une idée ?
Allez, moi je crois le 28 juin, non ?
Ouais.
18.
Quelqu'un a une autre date ?
Là je vais dire au hasard, je vais être un date. 10 juillet. J'en ai aucune idée.
Ah ouais, c'est vraiment le hasard tout court.
Ah, vraiment un hasard.
Tapine une date au pif.
Vraiment.
365 jours.
J'ai trouvé que 10 juillet c'était sympa.
Bon alors normalement, la plupart des gens vont répondre le 11 novembre 1918,
ouais.
Sauf que la vraie fin de la guerre arrive 8 mois plus tard, le 28 juin 1918.
Et ouais.
Et bravo Nico.
Bravo.
Grâce au traité de Versailles. Donc du coup, comme je l'ai dit, le 11 novembre, ce n'est pas la fin de la guerre, mais juste un armistice, c'est-à-dire un cessez-le-feu entre les différents pays d'Europe. La vraie fin de la guerre intervient 8 mois plus tard lors du traité de Versailles avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça une armistice et non une capitulation ?
Ah oui, parce que c'est pas l'armée. En fait, tu me l'avais dit. Donc,
voilà.
J'avoue que...
voilà, c'est un peu triché.
Oh, les tricheurs.
Tu triches un
alors
peu.
Alors que Nico, il ne triche pas, lui.
Non, je triche.
Donc, en fait, la capitulation, c'est signé par des responsables militaires, donc les hauts gradés, généraux, lieutenants et autres. Et l'armistice, elle, est signée par des civils. Ce qui m'amène à ma deuxième anecdote, qui se joue au niveau de l'armée allemande. En fait, les généraux allemands n'ont voulu pas avouer la défaite. Ils ont ainsi rejeté la faute sur le monde politique. Et donc, pour ce faire, ils ont envoyé Matthias Erzberg, donc qui est un jeune journaliste et jeune homme politique, signer l'armistice à leur place.
Ah, ils n'étaient pas très courageux.
Voilà, ils n'ont pas voulu voir la réalité
les épaules,
en face.
Quand même, hein.
Donc, du coup, ce qui m'amène sur ma troisième anecdote, donc ça, c'était du côté allemand, mais du côté français aussi, on a quelques petites anecdotes. Par exemple, la guerre aurait pu continuer pendant plusieurs années à écouter Raymond Poincaré et Philippe Pétain, donc le maréchal Pétain. Les deux voulaient envahir la Belgique, puis envahir l'Allemagne pour montrer aux Allemands leur défaite cuisante et envahir le pays et s'emparer des ressources. Mais ils se sont retrouvés opposés à Georges Clemenceau et Ferdinand Foch, qui, eux, voulaient arrêter de sacrifier des vies et des soldats inutilement pendant la guerre. Donc, je pense qu'on peut les remercier à l'heure actuelle. Et donc, enfin, j'arrive à ma dernière anecdote qui mêle un peu malchance et mauvais timing, si on peut le dire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Donc, ça entraîne un cessez-le-feu qui doit avoir lieu le même jour. Donc, les combats doivent s'arrêter à 11h11. Retenez bien l'heure. Donc, pour la symbolique de la date, en 11 novembre à 11h11. Beaucoup de 11. Et donc, est-ce que vous connaissez Augustin Trébuchon ?
Non.
Il est peu connu du grand public. C'est le dernier poilu mort sur le champ de bataille. Il est mort le 11 novembre 1918, à, tenez-vous bien, 10h55.
Oh, les boules.
Soit 16 minutes avant le cessez-le-feu.
Comment on peut continuer à combattre jusqu'à ce moment-là ?
C'est le temps que l'information est partie à 6h d'où ils ont signé le traité.
Ah, okay,
pas le traité, l'armistice. Et donc, le temps que l'information parte du lieu où il l'avait signé, jusqu'au champ de bataille, ça a mis à peu près entre 4 et 5 heures. Et donc, le temps que ça arrive, okay, les combats ont continué.
Il fallait que l'info soit à 11h11 partout.
Il fallait qu'à 11h11, tous les combats soient arrêtés. Mais le temps que ça arrive, okay, y a encore les combats ont lieu jusqu'à 11h11. Et donc, lui, il est mort à 10h55.
Ah ouais. Donc, pendant 16 minutes, il n'y a rien eu du tout, en fait. Ils ont juste regardé l'un blanc des yeux en mode « Attends, 11h11 ».
Certains ont continué à se battre et à 11h11, vraiment, il y a eu vraiment un cessez-le-feu un peu partout en Europe.
D'accord.
Donc voilà, c'était pas une chronique hyper joyeuse, mais bon, maintenant vous pourrez briller ou étaler votre culture en repas de famille ou auprès de vos amis.
Bah, c'est justement ce que j'allais dire. Merci Antoine pour ta chronique. J'espère que vous avez tous appris quelque chose autour de cette table. Si c'est le cas, eh bien maintenant vous pourrez vous aussi prendre pour des personnes très cultivées auprès des gens dans les soirées.
C'est le but.
Peut-être qu'Antoine ne le fait. Et c'est déjà pas mal. On clôt ces infos historiques et on passe dans l'univers littéraire et en particulier celui du manga. Ludo, tu vas nous parler aujourd'hui du manga Vinland Saga. Dis-nous en plus.
Alors déjà bonjour à toutes et à tous, on va effectivement parler de manga mais surtout de philosophie. Donc Vinland Saga, c'est un manga de Makoto Yukimura, avec deux saisons, dont une en 2023, et 27 tomes publiés aujourd'hui à cette date. Est-ce que déjà vous connaissez Vinland Saga déjà ?
Non.
Ça vous dit rien du tout ?
Ce nom de nom ?
Non.
Ok.
Pas du tout.
Eh bien écoutez, ça tombe bien, j'espère que je vais vous donner envie de le lire. Alors c'est une œuvre plus mature, on va dire pour un public plus âgé. Vinland Saga, c'est une œuvre qui flirte avec la grande histoire. Elle compte le récit d'un Islandais ayant réellement existé, mais évidemment largement romancé, Thorfinn Karlsefni, donc au XIe siècle, et on va dire un peu de son rapport à toute la société viking. Donc on revient sur la violence, c'est génial. Effectivement, la société viking, c'est une société qui est marquée par la violence, par l'importance du guerrier. D'ailleurs, le guerrier viking obtient le salut par le combat, hein, en mourant sur le champ de bataille, pour accéder donc au Valhalla, le paradis des guerriers. Thorfinn, lui, au début de l'œuvre, n'est pas un guerrier, il n'est qu'un enfant, mais l'assassinat de son père, alors qu'il n'a que 5 ans, Thorfinn, hein, par le mercenaire Askeladd, va l'amener à suivre une quête de vengeance envers lui. Alors, je ne vais pas évidemment refaire toute l'intrigue, et ne voulant spoiler des éléments, on va arriver à un point un peu de l'œuvre un peu clé. Thorfinn va, à un moment de l'histoire, finir esclave dans une ferme, n'ayant plus de réel but et torturé par un nombre de regrets après toutes les atrocités qu'il a commis pour servir sa quête de vengeance. Dans cette ferme, le travail de la terre, l'humble vie de paysan va l'amener sur un chemin de rédemption. Donc à ce moment-là, c'est un espèce de tournant scénaristique dans l'œuvre, parce que là où l'œuvre était un peu grossièrement un manga de baston, assez épique, on bascule dans un autre ton totalement différent vers le pacifisme, ce qui est quand même une décision assez... assez courageuse, puisqu'on peut décevoir bon nombre de lecteurs en disant « bon, bah, il n'y aura plus trop de combats », et de l'autre côté, se dire « oulala, ça part dans le trop philosophique ». Donc, Thorfinn décide de renoncer à la violence, ne devant être qu'un dernier recours, comme il le dit. Donc, au niveau de la philosophie, Thorfinn va juger ses actes en lui-même, ainsi que leurs conséquences, mais surtout ses actes en eux-mêmes. Il est ce qu'on appelle un déontologiste. Par exemple, sur le fameux dilemme du tramway, vous savez, vous devez sauver une personne ou cinq personnes, Thorfinn va probablement préférer ne pas faire de choix. Face à Thorfinn, dans cette confrontation philosophique, dans la ferme, un autre personnage va se présenter, c'est celui du roi d'Angleterre et du Danemark, Knut le Grand, sous lequel Thorfinn a servi, qui souhaite s'emparer de la ferme pour servir son projet. Alors lui, c'est clairement Hobbes, évidemment... Knut, lui aussi, est pour la paix, et il trouve que le cycle de violence sur Terre est quelque chose de plus ou moins fini, et que personne ne pourra sauver les hommes, pas même Dieu, sinon eux-mêmes. Il souhaite donc créer un paradis sur Terre, créé par les hommes, où la paix règne, mais pour en arriver à ce but, évidemment, des sacrifices sont nécessaires. Donc pour sauver le plus grand nombre, il est prêt à commettre des atrocités, même, mais en sachant très bien que ses actes sont mauvais. C'est donc un conséquentialiste qui juge les conséquences de ses actions plutôt que les faits en eux-mêmes. Thorfinn va finalement essayer de convaincre Knut de renoncer à ce bain de sang dans la ferme. Les deux philosophies vont donc s'affronter. Knut va d'ailleurs finir par se retirer des négociations et donc accepter le choix de Thorfinn. Mais pourquoi donc ? Un point d'entente est en effet possible entre déontologie et conséquentialisme. C'est ce qu'on appelle le conséquentialisme de la règle. Knut trouve notre héros trop naïf, bloqué par ses propres convictions et ne pouvant nous faire de réels choix. Mais une faille s'impose. Si tout le monde était déontologiste et que tout le monde faisait attention à ses actes, alors le conséquentialiste n'aurait plus à se salir les mains pour les autres. Et c'est justement en partie la solution de Thorfinn, et c'est là où le nom du manga va prendre toute son importance, on va dire. Thorfinn veut fuir la guerre, fuir la société de violence de Knut vers ce qu'on appelle le Vinland. En fait, ce sont les terres aujourd'hui de l'estuaire du Saint-Laurent, autour du Saint-Laurent, pour fonder un groupe où la violence et les armes sont proscrits. Knut trouve donc un partenaire dans son processus de paix, mais avec une méthode différente. Et la suite de l'histoire va donc compter comment Thorfinn va réussir à vivre dans cette société, à imposer sa philosophie, mais en refusant de faire l'usage de la force et de la violence, là où celle-ci est pourtant prégnante dans cette société. Évidemment, il y aura beaucoup d'autres dilemmes philosophiques qui sont présents au sein de l'œuvre, mais le pacifisme est une clé de voûte de celle-ci, et j'espère que ça vous aura donné envie de jeter un coup d'œil.
Merci Ludo pour ta chronique. On va faire une courte pause et on revient vers vous d'ici quelques minutes avec un jeu musical présenté par Nico. A tout de suite.
C'est Deusa avec ONG et Roberta Silva. C'est Buck Rogers tout de suite sur Campus.
Thank you.
sorriso, eu me escolhi por prazer. Cheia de esperança, eu pulo da cama e sei que eu quero viver. O sol é tão lindo, carrego comigo seu brilho aonde for ser. A força que tenho, ganhei como prêmio tudo que decidi vencer.
l'instant, c'était Carl Craig avec Atlas sur Campus 88.3 FM, un remix d'Antigone. Et alors, j'ai entendu parler de jeux dans les studios.
Nous revoilà, vous êtes toujours sur l'émission Écoute ta fac. Nico, aujourd'hui, tu nous as concocté un petit jeu de culture musicale, paraît-il. Alors, je te laisse nous le présenter.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais préparer un petit jeu. Vous voulez jouer au moins, parce que...
Évidemment.
Toujours, toujours. Le jeu s'appelle C'est quoi cet enfer ? Ah, là, vous faites. J'ai vu vos têtes. Oui, je suis starbé, je le sais.
On est impatients, là.
Vous êtes impatients. Alors, le but, c'est un blind test normal, mais à ma sauce. Genre, étonnez-vous pas si vous avez des sons revisités. Ils sont tous connus. Et là, il y a un thème. Le thème, c'est que tous les chanteurs ou chanteuses sont nés au mois de novembre. Donc, maintenant, on vous apprendrez quand ils sont nés.
Bon, j'espère que je serai dedans. Hein.
Il dit chanteur, chanteuse, des artistes, voilà.
On est des artistes.
Il y en a certains, ils vont être normal, ils vont être passés normal crème. Il y a certains, ils vont être en accéléré, ils vont en vitesse, vous allez voir au fur et à mesure. On part sur le premier son,
okay.
Lui il est normal, pour commencer en beauté.
C'est parti.
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant.
Alors, qui a le son ? Là, il est normal, il est pas.
J'ai le chanteur, mais le son, je pourrais pas.
Non, juste le chanteur, il faut le chanteur.
Michel Berger ?
T'es sûr ?
Ouais.
Son dernier mot ?
Ouais.
Oui, c'est ton. C'est... Bah, bravo, bravo.
Tu peux dire le nom au pif ?
Il l'a dit. Hein.
Oui, non, mais, ah, non, mais le nom de.
Vas-y.
Paradis blanc, au hasard.
Au hasard, c'est beau ça.
Ouais. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Oh là 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 là, mais.
Bon, le prochain, vous allez voir le son légèrement, mais légèrement perturbé. Ça part.
Ok.
Alors ?
Jennifer, au soleil.
Oui, au soleil, voilà. C'est ça.
Oh,
ça
ouais.
Va. Il n'y avait pas
elle
le Jennifer.
Était, elle était entendable
mais...
encore.
Ouais, mais ça, c'est la moins pire de tous.
C'est un peu de distorsion.
C'est la moins pire.
C'est très bizarre, ouais.
C'est très bizarre. Allez, on passe à une prochaine. Je l'ai remis en classique. En normal, c'est un grand classique épique française.
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour.
Qui a
C'est pas... Attends, mais je crois que je me trompe, mais non. C'est pas Petite Marie
genre,
c'est
si, le mais de qui
Attends, plus,
je l'ai reconnu, mais j'ai son nom sur le bout de la langue, j'arriverai
ouais,
pas à le dire.
Mais Petite Marie de...
C'est Francis Cabrel.
C'est bien, c'est bien, Shazam.
Merci le téléphone, merci le téléphone.
Non, non, il a pas Shazam. Non, on peut confirmer, pas Shazam.
Un léger tricheur, toi, un léger tricheur. Hein ?
Comment ?
On verra pour le prochain.
Allez, le prochain, attention, il est très... Il va être très ralenti. Alors,
C'est David Guetta.
Ah bah bravo.
Titanium,
voilà. Bravo.
Ça me faisait trop penser aux édits TikTok.
Meilleur
du là,
c'est pas avec
Sia.
C'est vrai qu'on dirait des édits.
Ouais, mais c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait hier soir.
Bah, t'es bravo. Très fort. Tu devrais la mettre sur TikTok. Je pense que la musique, elle va être reprise.
Franchement, elle est pas mal en vrai.
Il y a de la concurrence à David Guetta.
Alors, la prochaine, je trouve pas mal parce qu'en fait, j'ai accéléré. Et comme la musique est un peu mollassonne, ça donne un petit rythme à la musique, vous allez voir. I'm just kidding. Anywhere else I'd be taken. My destiny to live a life of longevity. I'm just kidding, but I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the sand and fight for me? I'm just kidding. Alors?
C'est Ryan Gosling dans le rôle de Ken dans Barbie de Greta Greenwich, un truc comme ça. J'ai oublié ça.
Fallait l'avoir.
Bon, bah, voilà.
Je l'ai pas vu le film.
Ah, il est fort, le vidéo, il est fort. Attends. Je vais t'avoir à un moment.
La culture.
Tu arriveras pas toujours. Bah, le prochain, on va voir si t'as la bonne culture.
C'est Oppenheimer.
Là, c'est au ralenti, mais très fort. Alors,
le sens de la vie,
c'est de Tal.
Tal.
Ouais, ouais, magnifique. Les deux,
la culture est forte. Hein,
allez, franchement. Allez, on passe sur le prochain. Il est normal,
Steve, ici.
Lui, il est normal.
Oh, un film, ça.
Tal, ils ont, mais pas ça. Hein.
Oh. Dans un film, Nico, ça? Non.
Ah, si, c'est dans un film. Elle est morte il y a peu de temps.
Ça, c'est ça, en plus. Alors, pour trouver Tal, là, il y a du monde, hein, mais pour trouver les grands classiques...
C'est Tina Turner.
Non, mais
c'est vrai ou pas?
Pourquoi t'as ton téléphone dans les mains, Chris, à ce moment-là?
Ah, mais non, mais...
Non, je crois qu'il a rien fait, mais...
D'accord, c'est Tina Turner.
Il est louche, ça.
The best. Oui, tu connais.
Merci. On a un peu de culture, forcément, ça dérange...
Allez, on passe sur l'avant-dernière.
J'avoue.
Qui est... Vous allez voir.
Ah, ok. Mystère. Ok, je l'ai. Inaudible.
C'est un peu 51 degrés. Hein.
Là, les trois quarts des écouteurs. Les auditeurs. Quoi.
C'est Shy.
Ça fait un peu 50 nuances la musique, non? Un peu.
C'était terrible.
C'est Shime,
horrible
c'est
pour les oreilles.
Et alors
musique, ouais.
Le oui, c'est ça.
Voilà. Et alors, ouais.
Allez, on va passer à la dernière.
Il y a plus d'auditeurs là,
téléphone dans les membres.
On va passer à la dernière qui est un grand classique des dernières années, vous allez voir. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du jack. Je suis foncé toute la night. Et nanani, nanana. Me raconte pas tes salades. C'est soit tu viens, soit tu tailles. On va pas parler de taille. Y'a des chéquets de la moulin. Elles sont foirées, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de colal, violent comme Conan. Alors.
Moi je l'ai.
Moi je l'ai. C'est E, c'est Gradure.
Oui, c'est Gradure. Bravo.
Oui. Moulin. Non.
Non, c'est pas celle-ci.
Ne reviens pas.
Ah, ne reviens pas.
Bien sûr.
Mais oui. Bah, du coup, sans surprise, c'est Ludo qui a gagné. Bah, autant que du Shine et du Tal, t'es fort.
Sans surprise.
Franchement. Mitty Turner.
Bah, moi je l'avais.
Oui, Shazam l'avait.
Grâce à Shazam,
oui. Et voilà, merci
comment
d'avoir joué.
Shazam, comme ça.
J'espère que vous allez jouer chez vous, dans votre voiture.
J'espère que vous n'avez pas changé de station.
Voilà, ouais.
Et que vos oreilles sont contactées aussi.
J'ai mal.
Oui, il y a 2-3 remixes, ça fait un peu mal. Hein.
C'est terrible. Ouais.
Mais non, si.
En tout cas, merci Nico pour ton super jeu, comme toujours. Tu ne nous sois jamais, ça c'est sûr, toi et ton inventivité. En tout cas, il est midi 56. Et avant la fin de l'émission d'Écoute ta fac, on passe à la Rocco du jeudi. Je vous laisse la parole à vous trois autour de cette table. Est-ce que vous voulez nous partager quelque chose aujourd'hui, que ce soit une œuvre littéraire, cinématographique, etc.
On est quatre déjà.
Oui, à vous quatre. C'est vrai.
Qui commence finalement?
Moi, je n'ai envie de faire, si vous voulez.
Bah, moi, j'en ai un aussi.
C'est une série sur Arte avec Léa Drucker qui s'appelle Sous contrôle. C'est une série un peu politique avec Léa Drucker en rôle principal qui joue Marie Tessier, qui est une humanitaire très qui pour médecin du monde. Qui est très implanté. Et un jour, un président de la République joué par Laurent Stoquet, qui joue un peu une caricature de Macron, Hollande, Chirac, comme vous voulez, qui mélange les trois, l'appelle et demande de devenir ministre des Affaires étrangères, sauf qu'en fait, il n'y a rien politique. Du coup, en fait, elle va intervenir sur le terrain comme si c'était une humanitaire et non une ministre. Du coup, elle va se mêler de tout, ça va plaire au président, et vous allez voir là, la suite, c'est très folklorique, très sympa sur Arte. Et c'est disponible depuis un mois et demi.
J'en ai parlé, apparemment, elle est très bien.
Elle est très sympa. Elle est sérieuse, okay. Sérieuse, un peu humoristique, mais pas dans l'humoristique comme les tuches, tu vois. C'est un vrai humour bien travaillé, bien.
Humour fin.
Bien, c'est ça, humour fin. Voilà.
Antoine, tu avais une recommandation?
Oui, moi j'avais un. Donc c'est un livre qui est un peu ancien, qui date de 2013, qui s'appelle La démocratie des crédules.
qui a été écrit par Gérard Bronner, donc qui est un professeur de sociologie à l'Université de Paris et qui est aussi membre de l'Institut universitaire de France. Et donc, en fait, dans son livre, il analyse tout ce qui va être théorie du complot, discours de la haine, des croyances dans la société et les conséquences que ça peut avoir sur nous, mais aussi sur notre démocratie. Et en fait, il explique comment les réseaux sociaux et les algorithmes jouent un rôle important dans la propagation des fake news, par exemple, au travers des jeunes et qui sont les plus impactés.
D'accord, donc c'est une œuvre assez sociologique, un petit peu.
C'est sociologique, il analyse un peu toutes les conséquences, tous les types de personnes qui peuvent être soumises à ça. Et ça peut être un sociologue, il écrit d'une manière très simple et tout le monde peut comprendre.
D'accord, assez grand public. Quoi.
Assez grand public,
okay.
Ouais.
Ludo, Chris, vous avez quelque chose à nous faire partager ?
Bah, moi, en ce moment, je lis le premier livre de l'humoriste Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière. Donc un livre très, très intime, où on a une introspection de Panayotis qui va se livrer sur son coming out homosexuel, sur sa relation avec son père, sur sa dépression aussi. Donc c'est pas le livre le plus joyeux, mais il y a une plume qui est très, très crue et en même temps assez extra-lucide. Et je pense que justement, ça peut parler à tout le monde parce qu'il arrive à poser des mots sur justement des sentiments, des sensations, des moments qu'on a vécu, et toujours avec une justesse assez folle. Et donc, je recommande, même si ça peut être un peu déprimant, et c'est un peu le banger de la rentrée littéraire, on va dire. Donc voilà, je recommande.
À toi, Chris.
Alors, pour ma part, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu cet été, de Bram Stoker, qui est Dracula. Donc ça nous parle d'un jeune notaire qui est envoyé en Transylvanie pour un client, le comte Dracula. Et très vite, il va se sentir mal à l'aise dans cet énorme manoir. Et puis, je ne vais pas tout vous raconter, tout vous détailler, mais il va très vite revenir à Londres en ayant quasiment tout oublié de ce qu'il a vécu lors de son séjour en Transylvanie. Et... alors, il y a plusieurs histoires qui vont s'entremêler entre différents personnages, des différents docteurs, lui qui est notaire, etc. Et pour découvrir un peu le secret de Dracula. Et le but sera de